Chapitre 34. Pitt Mondrian. Simplifie. Camille demeura polie, mais se voulut ferme. Docteur, les vacances d'été arrivent. Mona va bien, et je vous avoue avoir été très circonspecte après la séance d'il y a 3 semaines. Peut-être pourrions-nous en rester là. Le médecin eut l'air contrarié. Il haussa les épaules, souffla longuement et fit une grimace dubitative. Mais il ne voulait forcer personne. Il préconisa tout de même un bilan de santé complet. Pour les yeux, il fallait procéder à une rétinophotographie ainsi qu'à un examen de la tension oculaire et de l'épaisseur cornéenne. Après quoi, il prendrait un dernier rendez-vous avec la sortie de l'été. Il regarda la petite fille et avec une grosse boule de tristesse s'apprêta à lui dire au revoir. Mais Mona, comme elle l'avait déjà fait par le passé, s'interposa. « Attends, » dit-elle à sa mère. Elle insista pour essayer une ultime immersion dans l'hypnose. Camille hésita une seconde. Elle reconnaissait cependant tant de sa propre personnalité dans le ton résolu de sa fille qu'elle donna son assentiment et sortit du cabinet. Les paupières papillonnantes, le corps affaissé, Mona plongea dans cet état de demi-sommeil qui lui était désormais si familier. Et cette fois encore, le médecin la poussa à revivre l'expérience de la cécité. Une 30aine de secondes passèrent sans aucune réponse à ses suggestions. Puis se produisit quelque chose de tout à fait inattendu. Van Horst entendit d'abord sa jeune patiente relater le premier épisode traumatique, celui dont il connaissait le déroulé presque par cœur. Mais dans la foulée, la parole de Mona convoqua des événements qu'elle n'avait jamais encore confiés. La crise à la brocante de son père, vieille de plusieurs mois, et celle toute récente au musée d'Orsay, devant le tableau de Hammershøi. Le médecin comprit que l'enfant avait caché à tout son entourage ses 2 rechutes passagères. La transe dans laquelle elle se trouvait l'exhortait à les lui dévoiler. Il écouta le plus attentivement qu'il pouvait ses réminiscences. Mona, planant dans l'hypnose, les racontait sereinement. Elle eut en revanche un geste, un tout petit geste répétitif qui intrigua Van Horst. Il la réveilla et fit revenir sa mère dans la salle. Mona avait changé de visage. Elle semblait flottante et épanouie, comme on l'est le premier jour d'un retour de convalescence. Camille remarqua sa mine colorée et guetta l'expression du médecin, impénétrable. Elle l'interrogea, il répondit de façon monocorde en rédigeant l'ordonnance. « Bien, Mona devra faire son bilan de santé comme convenu. S'il y a la moindre anomalie, nous aviserons au plus vite. Sinon, je la reverrai en septembre. D'ici là, il faut qu'elle passe de belles vacances, mais qu'elle continue d'être suivie par son pédopsychiatre. Il effectue un travail remarquable avec elle, me semble-t-il. Je le contacterai à la rentrée. » Mona demeura interdite. La demande du docteur Van Horst lui permettait assurément de continuer à se rendre au musée avec son grand-père au mois de juillet et d'août, et c'était formidable. Mais qu'allait-elle raconter à ses parents et au médecin, maintenant qu'il voulait rencontrer ce psy qui n'existait pas? Elle se contenta d'esquisser un sourire poli. « Dadé sera bien trouvé, philosopha-t-elle en son fort intérieur. » La porte du cabinet se referma. Seul derrière son bureau écrasé par la paperasse, Van Horst se fit couler un café noir. Il méditait. Enfin, il chuchota à la manière de Sherlock Holmes. « Tout cela ne tient qu'à un fil. » Quand Henri comprit que l'été n'interromprait pas les visites artistiques du mercredi en compagnie de sa petite fille, il en fut soulagé. À Camille, il prétendit avec aplomb que le pédopsychiatre mystère poursuivrait les séances dans son cabinet. Elle essaya d'en savoir davantage, mais il exigea qu'elle continue de lui faire confiance sans poser de questions comme cela avait été convenu initialement. Elle céda. Quant à Henri, il se projetait déjà à Beaubourg. À Beaubourg, oui, car le calendrier hebdomadaire qui s'était fixé ne prévoyait plus qu'une seule visite au musée d'Orsay, et bientôt, il cheminerait vers le dernier tiers de la colossale fresque artistique dont Mona était la précieuse destinataire. Il prévint l'enfant et lui décrivit l'apparence de ce prochain écrin, plein de gros tuyaux extérieurs, de couleurs primaires et d'escalators transparents, situés de l'autre côté de la Seine, non loin du vieux quartier des Halles. Elle trépigna d'emblée. Mais avant cela, il fallait se rendre devant une ultime œuvre du musée d'Orsay. Une œuvre qui, à sa manière, concentrerait tout ce qu'ils avaient observé ensemble de la peinture du XIXe et qui, simultanément, annonçait les innombrables folies de la modernité. Mona se tenait prête et, cette fois-ci, ne mangea qu'une seule crème glacée sur la route. Henri la conduisit devant un tout petit tableau de 35 sur 45 centimètres d'un Hollandais qui allait révolutionner la vision du monde. C'était un paysage de campagne dominé par la succession rapprochée de deux grandes meules de foin et d'une dernière plus petite à droite de la composition. Elles étaient peintes selon un point de vue en léger trois quarts depuis la gauche du tableau. Il valait mieux, pour être certain de la nature des motifs, avoir lu le titre du cartel, car en dehors du ciel où s'étalait en couches fines un tissu de nuages clairs, on ne les reconnaissait pas directement. Les amas compressés d'herbes séchées, si communs à la campagne, s'apparentaient plutôt ici à de grossiers parallépipèdes rectangles quelque peu bombés, mous au niveau des arêtes et comme joufflus. La face externe était de surcroît traitée avec un tramage de touches verticales vigoureuses et très visibles, allant majoritairement du magenta foncé au vineux. Décrire le parterre, qui occupait un tiers de l'espace total, sur lequel reposaient les meules, était presque impossible. Il s'y mêlait des bandes vertes et des bandes bleues, sinuant suffisamment pour esquisser une impression de rebord, voire de berge. On voyait aussi des mouchetures blanches et quelques érections de virgules rousses, spécialement dans la partie droite, lesquelles faisaient songer en la circonstance à la flore éparse, des roseaux peut-être, qui poussent dans les milieux humides. On pouvait alors en déduire que les bottes de foin se dressaient dans l'atmosphère tourbeuse d'un étang, d'une prairie inondée, d'un polder indistinct aux allures de chaos barbouillé. Pendant la demi-heure que Mona passa devant la toile, le balai des touristes s'avéra soudain bien plus virevoltant qu'à l'accoutumée. Les surveillants de salle enrageaient et le faisaient savoir. « No flash, please! No flash, please !» Mona adorait voir des adultes gourmander d'autres adultes. Elle y puisait un petit signe de revanche. Et puis il y avait la signature du tableau du jour. Chaque fois qu'un visiteur découvrait l'identité de son auteur, il semblait surpris, sinon déçu, et regardait alors l'objet avec une espèce de confusion qui parasitait l'atmosphère. Un monsieur bien mis colla ainsi à trois reprises ses lunettes contre le petit monogramme dans l'angle inférieur gauche. Il interpella un des gardiens d'un air furibond, convaincu qu'on voulait le duper. « Ça, Mondrian ? Pas possible !» L'enfant sonda son grand-père d'un regard. « Vois-tu, Mona ? Piet Mondrian est connu sur la planète entière pour des tableaux qu'on qualifie d'abstraits, à base de quadrillages et de couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Ces tableaux, créés après la Première Guerre mondiale, ont non seulement bouleversé la peinture, mais aussi le design et l'architecture. Mais voilà, on occulte trop souvent le fait qu'il commença sa carrière d'artiste dès les années 1890, et que son style fut d'abord réaliste, soucieux de représenter la nature avec exactitude. Mais là, Dadé, est-ce que tu dirais que c'est le cas ? Non, en effet, ici, ça ne l'est pas. Ces meules sont de 1908 et ont un aspect évasif, incertain.
Oui, c'est comme si le paysage tremblait un peu, comme s'il était agité.
Nous sommes sur la bonne voie. Écoute. Mondrian s'intéressait de très près à une doctrine qui faisait fureur en Europe à l'époque. Une doctrine qui prétendait être en mesure de révéler une vérité très ancienne et universelle. Il s'agit de la théosophie.
C'est une religion ?
En quelque sorte. Les mauvaises langues diront que c'est une secte. Les partisans prétendront que c'est une sagesse. Disons que la théosophie cherchait une réconciliation généralisée de tous les cultes de l'Orient et de l'Occident, et même de toutes les connaissances pour créer sur Terre un climat d'harmonie où chaque humain serait habité par l'illumination. Il s'agit de s'épurer soi-même le plus possible pour arriver à l'essentiel, C'est une quête de dépouillement et de sagesse. D'ailleurs, si nous avions la possibilité d'avoir devant les yeux toute la production de Mondrian, nous verrions qu'entre ses débuts et sa maturité, l'artiste a procédé de la sorte. Il a tendu vers le plus grand dépouillement. Il est parti d'une figuration scrupuleuse pour s'orienter progressivement vers des formes réduites à une géométrie des plus élémentaires. Et ses meules sont fascinantes, car elles sont exactement à mi-chemin dans son parcours. C'est entre deux, Henri essaya d'expliquer qu'il correspondait à ce que l'histoire de l'art désigne comme l'expressionnisme, une mouvance très importante marquée par une conception intériorisée de la création, dans laquelle prime la sensation vécue sur la perception réelle, sans que celle-ci soit pour autant écartée. Van Gogh et Gauguin en avaient été les deux grands inspirateurs, le Norvégien Edvard Munch aussi. Ce célèbre auteur du Cri avait en l'espèce une définition éloquente. Il disait « L'art est la forme de l'image conçue à travers les nerfs de l'homme, son cœur, son cerveau, son œil. » Tel était l'expressionnisme, une appréhension de la peinture dont le prisme intègre tous les constituants de l'être, depuis la rétine jusqu'aux couches de la peau, en passant par les organes vitaux, les émotions présentes, les souvenirs passés et les fluides corporels. Afin d'assimiler au mieux ces considérations très ardues, Mona chercha à concrétiser les propos de son grand-père. Elle s'imagina Mondrian déambulant au milieu de la campagne hollandaise et se mit à le mimer. « Alors, en fait, c'est comme si j'étais Mondrian. Je suis là à marcher tranquillement dans les champs et je commence à ressentir, grâce au foin que j'ai face à moi, elle ouvrit grand les paupières, des émotions, elle fit un bond, de la joie, de la peine et d'autres choses encore. Et puis après, quand je peins le foin, je peins tout ce que j'ai ressenti. » Ses mains et ses doigts firent des signes d'ébullition. « Et du coup, je m'en fiche de mettre un peu plus de brun ou de rouge là où il devrait y avoir du vert. Parce que ce sont les couleurs que j'ai dans le cœur ou dans les nerfs. » Elle se tapa la poitrine. « Et tant pis si elles sont différentes de celles que j'avais pour de vrai devant les yeux. » Elle resta en suspens. « C'est ça, hein ?»«
C'est absolument ça, monsieur Mondrian. Et j'ajouterai, cher maître, que vous avez pris le soin de choisir un petit format, car plus la taille de votre toile est modeste, plus vous y injectez volontiers ce qui vous est intime et personnel. » Mona abandonna son rôle. Elle fixa le tableau un long moment en silence. Il commençait à lentement se révéler.
« Tu sais, Dadé, quand je vois tout ça, je sais bien que je dois penser à Van Gogh, c'est sûr, c'est vraiment pareil. Et puis aussi un peu à Monet et à Cézanne avant lui. Je m'en rends bien compte, mais... »
Tu as raison, oui. Mais alors quoi?
Mais c'est bizarre. Je pense surtout à quelqu'un d'autre. J'ai peur de dire une énorme bêtise. Pour moi, c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre là. Tu vas dire que j'ai zéro, je le sens.
Qui, Mona? Vas-y, dis.
Bon, rappelle-toi, Dadé. Devant la Joconde, la leçon, c'était qu'il fallait sourire à la vie. Tu te rappelles, j'en suis sûr.
Henri acquiesça.
Mais pour arriver à ça, on avait dit aussi que Léonard montrait qu'il y avait de l'énergie partout dans le paysage. Il montrait que partout il y avait des...
Elle hésita.
Des vibrations, tu sais?
Je sais, oui. Et donc?
Eh bien là, Dadé, c'est comme Léonard. Et c'est parce que Mondrian veut qu'on ressente bien que ça vit et que ça frémit de partout, qu'il pose des touches bien épaisses. Du coup, c'est comme si ça vivait, comme si ça respirait.
Comme si ça palpitait.
Oui, c'est ça. Je me rappelle, Dadé, tu avais dit ce mot devant les bouts d'agneau de Goya. Bah là, c'est pareil. Et regarde, Dadé.
Mona gloussa.
On dirait même que les meules de Mondrian, c'est un morceau de rosbif.
Tu vas un peu trop loin avec tes analogies culinaires, mais tu as tout à fait compris les sensations que cherche à extérioriser Mondrian. Sa peinture exprime l'aura intrinsèque qui traverse ce banal amoncellement de fourrage. Et il va se servir aussi du blanc fluide des nuages afin de nimber les masses de foin et de leur conférer une dimension cosmique. Mondrian veut que nous éprouvions, comme lui, l'esprit qui rayonne au sein de toutes les composantes du monde. Il nous appelle à regarder chacune d'elles dans son existence la plus élémentaire.
Et tu as vu, Dadé? Sur les meules, les coups de pinceau font comme des mailles.
Encore un bon point, Mona.
Quand
Quand je te l'ai dit, Mondrian est en pleine transition au moment où il réalise cette œuvre. Il s'apprête à réduire ses tableaux à des structures très épurées. Dans les années 1910, peu de temps après ce tableau, il va chercher à organiser son espace avec un maillage entre des lignes verticales et des lignes horizontales.
Mais pourquoi ?
Il imaginait que les premières, avec leur aspect montant, avaient une valeur spirituelle, et les secondes, étalées, une valeur terrestre. Il pensait qu'en construisant ces toiles comme des grilles, avec des angles droits partout, il dévoilait donc l'harmonie cachée de l'univers. Cette idée ne lui venait évidemment pas de nulle part. C'était son initiation à la théosophie qui la lui avait dictée. Mona s'égarait un peu, mais releva néanmoins l'abondance des touches à la dynamique ascensionnelle, formant une perpendiculaire, pas toujours très rigoureuse, avec des traînées sur la largeur de la toile, en particulier celle qui marquait le premier plan. Ah, ce premier plan! C'était ce qui la gênait le plus. L'artiste lui semblait tout de même prendre vraiment beaucoup de liberté avec le souci de ressemblance. Henri avait beau raconter ce qu'étaient les polders de la Hollande, elle trouvait surtout qu'on aurait dit une palette souillée. « Avec ta théosophie, ton expressionnisme et tes trucs d'abstraction, je sais déjà que la leçon de Mondrian va être compliquée. »
« Elle pourrait l'être, c'est vrai. Mais ce n'est pas une obligation absolue non plus. »
Preuve en est qu'on peut aussi la faire tenir en un verbe, un seul, en une injonction qui est elle-même tout à fait simple. Simplifie. Mondrian simplifie son traitement pictural, sa facture. Il simplifie ses couleurs sans plus se soucier qu'elles correspondent ou non à celles de la nature. Il se focalise sur du foin, c'est-à-dire sur un motif tout simple du quotidien. Quand on pense aux transformations, on croit toujours que c'est pour aller vers davantage de complexité. On croit que les transitions, les métamorphoses, procèdent par addition et non par soustraction. Mondrian nous apprend le contraire. Simplifie. Simplifie, Mona. Vois-tu ?
Oui, Dadé. Je crois que je vois. Je vois.